Le dernier groupe aussi vient de finir sa prière. Voilà, je crois qu'on a passé un très bon moment. Hein? Oui, oui, ça fait du bien. Nous continuons l'enseignement, c'est l'enseignement 3. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ce que nous allons voir ce matin avec la dernière partie. Hier, on a posé les bases dans l'introduction. On a parlé du Père qui doit nous conduire, le Fils qui doit nous conduire. Aujourd'hui, nous allons voir le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité qui conduit l'Église, qui nous conduit vers la vérité tout entière. La première référence que je nous donne, c'est le psaume 143, verset 10. Déjà, le psalmiste dit, psaume 143, verset 10, « Tu es mon Dieu, ton esprit est bon, qu'il me conduise. Tu es mon Dieu, ton esprit est bon, qu'il me conduise. » Psaume 143, verset 10. Donc, l'esprit qui nous conduit, c'est l'esprit, comme on le sait, c'est l'esprit saint, c'est l'esprit qui est bon. C'est l'esprit qui nous conduit au cœur de la bonté de Dieu. Voilà. Et vous voyez Jésus, par exemple, quand il a reçu le baptême dans les eaux du Jourdain, l'Esprit s'est posé sur lui sous l'apparence corporelle, sous une colombe. Et la voix du Père éternel se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Écoutez-le. » Ce qui veut dire que dans nos baptêmes, baptême de chacune et de chacun, c'est la même chose qui se reproduit. Et Jésus lui-même, il a dit à la fin de l'évangile, selon Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20, Matthieu 28, verset 19 à 20, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle, tous ceux qui croiront, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Matthieu 28, verset 19 à 20. Oui. Matthieu 2, 8, 19 à 20. Voilà. Et je parlais de l'Esprit Saint. L'Esprit qui s'est posé sur Jésus, c'est le même Esprit qui se pose sur nous dans notre baptême. C'est le même Esprit. Et la voix du Père qui a retenti le jour-là et qui va retentir pendant la transfiguration, « Tu es mon Fils bien-aimé », c'est cette même voix qui retentit toujours dans notre vie et qui nous dit « Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon Fils bien-aimé ». Donc, l'Esprit qui s'est posé sur Jésus le pousse maintenant au désert. C'est ce que nous avions vu le dimanche passé. L'Esprit qui s'est aussitôt, après avoir reçu le baptême, l'Esprit le pousse au désert. C'est le même Esprit qui nous pousse aussi au désert. Mais quand nous parlons de désert, comme je l'ai dit pour l'Égypte hier, il ne s'agit pas de l'Égypte matérielle comme une terre, comme un pays qu'on peut toucher. L'Égypte peut habiter mon cœur. L'Égypte peut habiter ma famille. L'Égypte peut habiter ma maison. Il s'agit d'une terre d'esclavage dans le contexte biblique. Dans le contexte biblique, il s'agit d'une terre d'esclavage. Cette terre d'esclavage peut habiter mon cœur. Et Jésus vient aussi comme Moïse, envoyé par Dieu à tirer le peuple de l'esclavage de Pharaon. Aujourd'hui encore, des pharaons peuvent habiter mon cœur. Des pharaons peuvent exercer leur domination dans mon cœur. Donc, tout comme Moïse qui est allé chercher le peuple en esclavage en Égypte, de même Jésus aussi, aujourd'hui, vient nous chercher sur nos terres d'Égypte qui sont dans nos cœurs. Et la traversée de la mer Rouge est le symbole du baptême. Jésus nous fait passer par le baptême. Et nous rentrons dans le désert avec Jésus qui est poussé par l'Esprit au désert. Mais il ne s'agit pas d'un désert géographique, nécessairement où on doit s'y rendre avec les pieds. Mais il s'agit du désert intérieur, du désert de la foi, du désert existentiel de notre cœur. Et Jésus nous conduit tout comme Moïse. Jésus, c'est le nouveau Moïse. Jésus nous conduit non pas vers Canaan physique, un pays, une terre, mais Jésus nous conduit vers Canaan céleste. Il nous conduit vers la Jérusalem céleste. C'est... Vous voyez un peu. Donc, Moïse qui va chercher le peuple en Égypte sous la domination de Pharaon, Jésus qui vient tous les jours nous chercher sur nos terres d'Égypte intérieure, Moïse avec le peuple, la traversée de la mer Rouge, Jésus qui vient nous chercher et qui nous invite à la conversion pour traverser les eaux du baptême, Moïse qui conduit le peuple dans le désert vers Canaan, Jésus qui nous conduit jour après jour dans ce désert intérieur de la foi, poussé par l'Esprit, vers Canaan aussi Jésus, mais pas Canaan comme un pays, comme une terre, mais Canaan céleste. C'est ça l'objectif que nous visons. Rappelez-vous de ce qu'on s'est dit au début de l'enseignement. Que Dieu nous conduit vers la patrie céleste. Et notre objectif doit être focalisé sur la recherche de cette patrie céleste. Le Père nous conduit, le Fils nous conduit, l'Esprit nous conduit, l'Esprit nous pousse au désert vers cette patrie céleste. Voilà un peu Moïse dans l'Ancien Testament, Jésus, le nouveau Moïse dans le Nouveau Testament. Vous voyez un peu? Voilà. Donc le baptême de Jésus, vous allez trouver ça dans Luc 3, verset 22, et Jésus poussé par l'Esprit au désert, vous allez trouver ça dans Luc 4, verset 1. Luc 3, 22, pour le baptême, et Jésus poussé par l'Esprit, conduit par l'Esprit au désert, dans Luc 4, verset 1. Donc, le même Esprit qui va nous conduire tous les jours, c'est ce même Esprit qui a poussé Jésus dans le désert. Et la pointe que je veux partager avec nous, c'est cette disponibilité intérieure que nous devons avoir pour laisser le Saint-Esprit nous pousser au désert. En d'autres termes, être sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Voilà. Être sous la mouvance de l'Esprit-Saint, être sous la motion de l'Esprit-Saint, nous laisser pousser par l'Esprit-Saint au désert. Et l'Esprit-Saint doit être cette impulsion intérieure qui nous renouvelle de l'intérieur, qui nous revitalise de l'intérieur, qui nous ragaillardit de l'intérieur, qui nous pousse. Voilà. On doit se laisser pousser par l'Esprit-Saint dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on entreprend. Jésus va nous dire dans Jean 16, verset 13, « L'Esprit vous guidera vers la vérité tout entière. » Donc cet Esprit qui doit nous pousser, c'est cet Esprit qui nous conduit vers la vérité. Mais cette vérité, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Parce que, n'oubliez pas ce que je vous ai dit hier, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je l'expliquais hier par ego et mi. C'est moi. Il n'y a pas d'autre vérité ailleurs. C'est moi. La vérité. Cette vérité, c'est une personne. Donc, Jésus qui dit l'Esprit va vous conduire vers la vérité tout entière, c'est-à-dire... L'Esprit va vous pousser vers la connaissance du Fils qui vient sauver le monde. L'Esprit nous pousse vers la vérité, c'est-à-dire cette vérité, c'est une personne incarnée dans le temps et dans l'espace. L'Esprit nous pousse vers Jésus. Autrement dit, vous voyez par exemple la Vierge Marie, il faut lire Luc chapitre 1, verset 35. La Vierge Marie qui dit, comment tout cela, la Vierge Marie discutait avec l'ange Gabriel. Tout ce que tu viens de me dire, Luc 1, verset 35, mais tout ce que tu viens de me dire, comment tout cela va se réaliser? L'ange Gabriel lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Autrement dit, Jésus est fécondé par l'Esprit Saint. Dans le credo, nous le disons, conçu par l'Esprit Saint. Jésus est conçu par la puissance de l'Esprit Saint. Se laisser conduire par le Saint-Esprit veut dire que je me laisse féconder par la puissance de l'Esprit et je deviens une autre Vierge Marie pour concevoir Jésus, l'enfanter et le donner à l'humanité. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. L'Esprit qui va, nous sommes dans l'Esprit qui nous conduit, c'est ce même Esprit qui est descendu sur la Vierge Marie. Jésus est conçu par la puissance de l'Esprit. Ce même Esprit descend sur toi, descend sur moi. Et c'est cet Esprit qui forme Jésus en nous. C'est cet Esprit qui va nous féconder tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend. L'Esprit vient féconder tout en nous. Ce n'est pas un Esprit stérile. C'est pourquoi quand on est dans la puissance de l'Esprit, on ne peut que porter des fruits. Parce que c'est un Esprit qui porte des fruits, c'est un Esprit qui est fécond, c'est un Esprit foisonnant, c'est un Esprit fertile. Quand on est dans la puissance et dans le feu de l'Esprit, on ne peut que porter des fruits. Jésus l'a dit. C'est bon? Jésus lui-même, l'Esprit, comme je viens de le dire, l'Esprit l'a poussé au désert. Mais l'Esprit repose aussi sur lui. Il faut lire Luc chapitre 4. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Voilà. Et non seulement l'Esprit va nous pousser, mais comme la Vierge Marie, l'Esprit s'est posé sur la Vierge Marie. Jésus lui-même, l'Esprit de Dieu repose sur moi. C'est ce que nous devons toujours rechercher, que l'Esprit de Dieu se pose sur nous, que son onction céleste se pose sur nous. Ce qui veut dire que, ça c'est Luc chapitre 4, en accueillant l'Esprit de Dieu qui va se poser sur nous, l'Esprit nous transfigure comme Jésus sur la montagne de la transfiguration. Nous sommes appelés à ça. Et c'est l'Esprit Saint qui fait cette œuvre en nous. L'Esprit qui nous transfigure. L'Esprit, je nous rappelle ce que j'ai dit hier. Quand Moïse revenait de sa retraite, de son cœur à cœur avec le Seigneur, le visage de Moïse devenait tellement brillant, lumineux, étincelant, ravissant, que Aaron et le peuple n'arrivaient même pas à voir son visage. Et je citais le psaume 33. Tous ceux qui regardent vers lui resplendiront sans ombre ni trouble au visage. C'est la même chose qui se passe quand on accueille la puissance de l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de lumière. Ça nous transfigure. Ça change notre visage. Mais il ne s'agit pas de notre visage extérieur, mais du visage de notre âme. Le visage de notre esprit, le visage de notre foi, le visage de notre espérance, le visage de notre charité, le visage de notre don total au Père. L'Esprit Saint vient transfigurer tout cela en nous. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira vers la vérité, dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, tout ce que Jésus nous a dit, tout ce que Jésus nous apprend, c'est l'Esprit Saint qui vient réveiller tout cela en nous. Voilà. Un autre point important en parlant de cet esprit que nous devons accueillir, Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquez pas de satisfaire les convoitises charnelles. Galates 5, 16. Les convoitises, on ne va pas les citer. Vous pouvez les trouver facilement dans Galates 5, verset 19. C'est un morceau. Hein. Mais si vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire, je peux, voilà. Parce que, d'abord, je reprends les références parce qu'il y a certains qui n'ont pas pu noter. D'abord, laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquez pas de satisfaire les convoitises charnelles. Ça, c'est Galates 5, verset 16. Et Saint Paul qui continue et qui cite maintenant ses convoitises, Galates 5, verset 19. Il cite maintenant les convoitises. C'est comme si vous voulez que je les cite, donc je vais essayer. D'accord. Il y a débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie, gloutonnerie et autres choses du même genre. Voilà, c'est un peu la liste que Saint Paul, je crois que, qui ne se retrouve pas dans cette liste. Moi, je me retrouve. La Vierge Marie, oui, d'accord. Donc, on se retrouve dans cette liste. C'est pour nous l'occasion de nous ajuster, de voir un peu qu'est-ce qui ne va pas. La liste est là. Hein? On peut toujours regarder dedans où est-ce que je me situe. Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est la colère? Ce qui m'arrive de temps en temps d'être en colère sans savoir pourquoi même je suis en colère. Dieu, il est en colère aussi. Dieu, il est en colère. Oui, là, on va l'expliquer, peut-être si on a le temps. Ça a du sens, hein, ça a du sens. On va l'expliquer, si on a le temps. Division, il y a certaines personnes, quand ils arrivent quelque part, ils divisent les gens. Ils divisent les gens et c'est une petite parenthèse. Vous savez, le père de la division, vous le connaissez? C'est qui? Voilà. C'est lui le père de la division. Donc, si vous êtes quelque part et puis il y a toujours division, sachez que le petit bonhomme, il vient de s'infiltrer dedans. Vous voyez? Il vient. Voilà. S'il y a division dans les groupes de prière, et voilà. Sachez qu'il est arrivé et il faut le combattre. Voilà. Il faut le combattre. C'est le père de la division. Et quand on parle de. On parle de Satan, bien voilà. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans les retraites précédentes, mais il y a deux choses qu'il faut éviter. Voilà. Quand on parle de Satan, il y a deux choses qu'il faut éviter. La première chose qu'il faut éviter, c'est la surestimation du diable. Ça, il faut l'éviter. Je vous en prie. La surestimation du diable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le diable. Oui, ça c'est lui, ça, c'est le diable. Ça c'est le diable. On le voit partout, c'est la surestimation. Non, ça ne marche pas comme ça. La deuxième chose qu'il faut éviter, c'est la sous-estimation du diable. Non, il n'existe pas, non. C'est une histoire à dormir debout. Oh, vous aussi, le diable n'existe pas. Oh, mais qui vous dit qu'il n'existe pas? Il a tenté Jésus. Il s'est présenté devant Jésus, il a tenté. Qui dit qu'il n'existe pas? Et Jésus lui-même, il a dit, j'ai vu Satan descendre du ciel comme l'éclair. Alors, qu'est-ce qu'il faut garder dans tout ça? S'il ne faut pas le surestimer, s'il ne faut pas le sous-estimer, qu'est-ce qu'il faut garder? Le diable existe, mais il est vaincu par le Christ. Point barre. Il n'y a pas autre chose à dire que ça. Surestimation, non. Sous-estimation, non. Il existe, il est vaincu par le Christ. Et c'est tout bon. Ça va comme ça? Voilà. Donc, pour l'esprit, je crois que je vais aussi... Il n'est pas le seul.
Qui divise. Le Christ lui-même a dit, je suis l'épée qui divise, qui a fait apporter la division entre l'homme et son père.
Jésus, il est cette vérité. Vous savez, quand la vérité arrive quelque part, mettons un peu la différence entre l'épreuve et la tentation, par exemple. Jésus, comme je l'ai dit hier, l'or passe par le feu pour avoir toute sa valeur. Et Jésus, quand il nous met au cœur de l'épreuve, ce n'est pas pour nous incliner vers le mal. Vous voyez? Jésus ne nous incline jamais vers le mal. Tandis que quand l'autre arrive, son initiative, c'est de nous dérouter, c'est de nous désorienter, c'est de nous conduire vers l'enfer. Troupeau parqué pour l'enfer. C'est ça son objectif. Il ne veut pas être seul là-bas. Il veut des amis de l'autre côté. Donc, quand il arrive quelque part, c'est pour se faire des amis. Voilà, je vous divise pour que vous ayez de mon côté. Mais quand Jésus dit, le contexte que vous citez, un enfant qui croit en Dieu et ses parents qui disent, si c'est ça, tu crois en Jésus, alors là, je te renie, tu n'es plus mon enfant. On peut citer un contexte comme ça. Vous voyez, là, c'est la lumière céleste qui intervient. Et les parents, ou bien soit les enfants, chacun de son côté est appelé à faire un choix radical en suivant le Christ. Mais le Christ n'intervient pas pour nous pousser vers le mal. Jamais. Jamais, jamais. Voilà. Ça me permet, ce que tu viens de dire, me permet de dire que quand l'autre intervient, c'est pour diviser et régner. Voilà. Et le Christ, quand il intervient, c'est pour rassembler et régner. Donc, voilà la différence. Voilà. Quand l'autre intervient, il vous divise, il vous fracasse. Et puis, il installe son trône. Voilà. C'est ce que l'autre, il fait. Mais quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble les cœurs. Et lui-même, il a dit, « Quand vous verrez le Fils de l'homme élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Donc Jésus, c'est l'aimant pris dans tous les sens. Aimant qui capture, aimant comme amour. Donc c'est lui qui capture, il rassemble tout. En lui, nous avons la récapitulation de tout. Il est là pour nous rassembler dans l'amour du Père éternel. Il rassemble pour régner, l'autre divise pour régner. Donc, ayez un peu, vous voyez dans le discernement, vous saurez en même temps que c'est l'autre qui agit. Et c'est le Christ qui agit avec le discernement, ça bouge. Bien, il faut que je termine. Voilà. C'est tout bon pour le Saint-Esprit. Je prends maintenant, pour la dernière partie, quelques témoins ou figures bibliques conduits par le Père, le Fils et l'Esprit. Voilà. Donc, on a pris la Trinité. Je vous ai expliqué un peu ce que chacun fait au sein de la Trinité comme une famille. Parce que le thème, c'est se laisser conduire par Dieu. Et se laisser conduire par Dieu, on peut ouvrir une parenthèse au niveau de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on a vu les trois personnes de la Trinité. Mais ceux qui se sont laissés conduire par ces trois personnes de la Trinité, la liste ne sera pas exhaustive. Mais je vais essayer de prendre juste quelques figures bibliques pour nous dire que c'est difficile. C'est l'or qui doit passer par le feu. C'est... David qui doit être en face de Goliath. C'est Moïse et le peuple qui doivent être en face de la mer Rouge. C'est Abraham qui doit attendre 25 ans avant que sa prière ne soit exaucée. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il y a des amis de Dieu que nous pouvons constater dans le contexte biblique. La première personne qu'il faut citer, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, sous l'action de l'Esprit, comme je viens de le dire, elle a conçu par la puissance de l'Esprit. Et là, nous pouvons voir ça dans la visitation de la Vierge Marie, Luc chapitre 1, verset 39 à 56. Luc 1, 39 à 56. Marie qui visite Élisabeth sous la puissance de l'Esprit. Marie, la première en chemin, la première missionnaire vers sa cousine Élisabeth, sous la puissance de l'Esprit Saint. Et vous voyez, quand l'Esprit Saint unit les cœurs, ça déclenche des étincelles de grâce, de prophétie. Deux femmes qui ont conçu d'une manière extraordinaire pour donner naissance à deux enfants extraordinaires. Deux femmes qui ont conçu d'une manière extraordinaire, je l'explique. La première qui a conçu 6 mois avant, c'est Élisabeth, femme stérile. 1, elle ne peut pas concevoir. 2, femme âgée, ça veut dire qu'elle a atteint la ménopause, elle ne peut plus concevoir. C'est impossible. C'est impossible. Elle ne peut pas concevoir. Mais sous la puissance de l'Esprit, elle a conçu. Ce qui veut dire que quand on s'ouvre à la puissance de l'Esprit qui vient nous visiter, la parole de l'ange Gabriel s'accomplit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que l'homme imagine que c'est impossible, ça ne peut plus se réaliser. Je n'ai plus l'âge de faire un enfant, je ne peux plus me marier, tout est fini pour moi, ma vie est basculée, c'est fini. Maintenant, comme les disciples d'Emmaüs, tournons la page, quittons Jérusalem, allons vers Emmaüs la nuit parce que notre rêve est éteint. Tout est fini, tout est sombre, tout est lugubre, tout est sinistre, c'est fini. Le tableau est noir, il n'y a plus d'espoir. Dieu nous rejoint pour nous dire, non, tu n'as pas le droit de dire c'est fini. Pourquoi tu dis ça? C'est pas fini. Regarde le cas d'Élisabeth, stérile, avec son âge, tout est réuni. Elle ne devait plus concevoir. Mais n'oublie pas que je suis le Dieu qui a tracé le passage et... Moïse et le peuple, ils ont marché à pied sec, au cœur de la mer Rouge. Je suis le même Dieu, pourquoi tu oublies ça? Tu n'as pas oublié. Je suis le même Jésus, par 5 pains et 2 poissons, j'ai nourri 5 000 personnes. On a rempli 12 paniers. Est-ce que tu oublies ça? Je suis le même Dieu. Mais pourquoi tu as une mémoire assez courte? Voilà. Donc, je ne vais pas perdre le fil. Donc, je parlais d'Élisabeth. Et de l'autre côté, vous voyez le paradoxe. L'autre côté, celle qui est la jeune fille, qui a tout en place et qui peut concevoir en ayant une relation avec un homme. L'homme aussi est déjà là. Elle a conçu autrement. Suivez un peu. Élisabeth a conçu autrement. Parce que les conditions ne sont pas réunies, elle a conçu. Et celle qui devait normalement, tout est en place, elle est une jeune fille, tout est normal dans son corps. Et l'homme aussi qui pouvait aller avec elle, tout est là, mais elle a conçu autrement. Pour dire que les chemins du Seigneur sont insondables et impénétrables. Les chemins du Seigneur sont insondables et impénétrables. Quand le Seigneur intervient, il réalise son plan d'amour divin et parfait. Se laisser conduire par l'Esprit, comme nous le voyons dans le cas de la Vierge Marie et d'Élisabeth, c'est s'ouvrir à l'amour inconditionnel du Père, comme je l'ai dit hier, qui ne se contente pas de faire de petits projets avec nous, mais qui nous révèle que toute notre vie est un projet pour lui. Et c'est lui qui mène ce projet. Ma vie est un projet de Dieu. Non seulement Dieu se contente de faire de petits projets avec moi, je veux faire du commerce, je veux me marier, je veux voyager, je veux faire ci. Oui, Dieu est là pour nous accompagner dans ces petits projets. Mais plus que ça, au-delà de ça, toute ta vie même est un projet de Dieu, est un chantier de Dieu. Je continue. Voyez un peu le cas de la Vierge Marie d'Élisabeth. Hein. Donc, vous connaissez bien ces textes. Je ne vais pas m'étaler dessus. Je prends un autre exemple. L'élection de Matthias et de Justus sous l'action de l'Esprit-Saint dans Actes chapitre 1, versets 15 à 28. L'élection de Matthias et de Justus. Donc, vous savez, Judas... Acte 1, 15 à 28. L'élection de Matthias. Pour nous dire que le Seigneur, il voit autrement les choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par l'élection de Matthias et de Justus. Vous connaissez le contexte, c'est que Judas Iscariote, il a décliné par rapport à son rôle, il a pris son chemin. Maintenant, il faut élire quelqu'un pour le remplacer dans le collège des 12. Et comme vous le voyez, Justus, ça veut dire, mais celui qui est droit, il est exemplaire, il est correct. Et en allant à l'élection, Matthias et Justus, tout le monde se disait, mais non, s'il est clair, il est clair, il est Justus, il est exemplaire, il est correct. Non, c'est clair, c'est Justus qui gagne l'élection, ça c'est clair. L'Esprit du Seigneur a décidé autrement et c'est Matthias qui est choisi. Pour nous dire que quand on invoque l'Esprit, on doit sortir de ses schémas. Nous avons des schémas, nous avons des visions, nous avons nos catégories, nous avons nos a priori, on a tout, on a nos schémas classiques. Oui, ça doit aller comme ça, oui, c'est comme ça, moi je vois. Non, c'est comme ça. Mais quand l'Esprit descend... L'Esprit nous dévoile et nous révèle le dessein bienveillant de Dieu. Voilà. Quand l'Esprit descend, c'est comme ça, vous les hommes, vous voyez. Oui, vous n'avez pas tort. Mais comment Dieu, il voit la situation? C'est l'Esprit qui nous apporte cette nouvelle. Voilà. Et quand on l'invoque et il descend, il nous révèle ce que Dieu pense de la situation. Invoquer l'Esprit Saint, recevoir l'Esprit Saint, se laisser féconder par l'Esprit, laisser l'Esprit se poser sur nous, c'est accueillir le regard de Dieu sur telle ou telle situation. Comment Dieu pense la chose? Comment Dieu voit la situation? Quelle est la vision de Dieu? Quel est le regard de Dieu? N'oubliez pas ce que je vous ai dit hier, que nous sommes limités et finis dans le temps et on doit s'ouvrir à la dimension de celui qui est infini et illimité. Vous voyez, on avait dit ça hier. Un autre exemple. Actes chapitre 2, versets 14 à 36. Actes 2, 14 à 36. Le discours de Saint-Pierre le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voyez un peu le Vendredi Saint. Parce qu'on ne peut pas parler du dimanche de la résurrection, de la Pentecôte et de tout s'il n'y a pas le Vendredi Saint. Nous ne pouvons pas aller sur le dimanche de la résurrection si nous ne sommes pas passés par le Vendredi Saint. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas chanter l'Alléluia du dimanche matin de la résurrection si la victoire du Vendredi Saint n'est pas proclamée, si Jésus n'a pas donné sa vie sur la croix. Et le Vendredi Saint, notre cher Saint-Pierre, il a vu son maître, trois fois il a dit, non, moi je ne te connais pas. Bien sûr. Jésus a dit, l'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Et il a vu son maître. Il a dit, non, je ne te connais pas. Pour la deuxième fois, non, moi, je ne te connais pas. Et la troisième fois, je ne te connais pas. Mais vous vous rappelez de cet adage qui dit qu'on reconnaît les meilleurs amis au cœur de l'épreuve, au cœur de la souffrance. N'oubliez pas que déjà dans Matthieu chapitre 16, à Césarée de Philippe, Jésus a dit à Pierre, je crois que c'est cette semaine, on a lu ça, hein, la chair de Saint-Pierre, le jeudi. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, mon église, mon église. Ne l'oublions jamais, c'est l'église de Jésus, mon église. Et celui à qui tu as confié les clés de ton église te voit au cœur de la souffrance et te dit, je ne te connais pas, je ne te connais pas, je ne te connais pas. Après la résurrection, si c'était vous et moi, on a dit, mais Pierre, voilà, tu m'as vu le vendredi saint, tu m'as dit, je ne te connais pas, voilà maintenant, on m'a crucifié, c'est la résurrection, donne-moi maintenant le pouvoir des clés. Non, 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 tu ne vas plus conduire mon église, remets-moi les clés, remets-moi les clés. Non, 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 non. Non, non, tu m'as tellement déçu devant les gens. Dépose les clés. Comme ce chant qui dit, j'ai déposé la clé. Vous voyez? Donc, dépose. Non, 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 remets-moi les clés. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, c'est la fin de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, le dernier chapitre 21, hein, où Jésus a rencontré Pierre. Voilà, même tu. Voilà. Donc, c'est ce que. Avant de parler même de la Pentecôte, il y a cette parenthèse, c'est ce que Jésus fait toujours avec nous. Son amour est toujours là, même si de temps en temps on est d'autres Pierre, même si de temps en temps on est d'autres Judas, même si de temps en temps on déserte le Christ, on abandonne le Christ, son amour nous poursuit toujours. Il veut nous conduire et son amour, son esprit nous poursuit toujours. Il ne nous force pas. Il est là dans la douceur de son amour. Et quand nous célébrons le Vendredi Saint et le Grand Mystère Pascal, nous célébrons la puissance de l'amour et non l'amour de la puissance. Nous célébrons la puissance de l'amour de Dieu qui va jusqu'à l'extrême du don de soi et non l'amour de la puissance. C'est ce que nous célébrons. Et Jésus, il a dit à Pierre, non, je sais, tu es homme, tu voilà. Et c'est la même chose que le Seigneur fait avec nous. Je ferme cette parenthèse. Je parle du vendredi, du dimanche et de la Pentecôte maintenant. Je ferme la parenthèse. Je parle de la Pentecôte pour nous dire que le Pierre, si on compte le Vendredi Saint, à Pâques, ça fait 3 jours. Pâques, Pentecôte, 50 jours. Donc, Vendredi Saint, Pentecôte, ça fait 53 jours. À peu près. Vous êtes d'accord avec moi? 53 jours après, le même Pierre prend la parole devant les gens. Il n'a plus peur. Il n'est plus tétanisé par la peur. Il a pris la parole. Il a affirmé sa foi. Donc, accueillir la puissance de l'Esprit comme Pierre, le vent de Pentecôte qui a soufflé, le feu d'en haut s'est posé sur les apôtres. Quand on accueille le feu céleste qui descend du ciel, on est transfiguré. Et ce que je vais dire maintenant, l'onction d'en haut se pose sur nos paroles. Et tous ceux qui vous écoutent ou nous écoutent, écoutent une parole humaine, mais qui est fécondé par la puissance céleste. Et c'est ce qu'on doit toujours demander, que l'onction céleste repose sur nos paroles qui sont limitées, nos paroles qui sont faibles, nos paroles qui sont insignifiantes, nos paroles qui ne pèsent pas comme pécheurs, pécheurs que nous sommes. Mais quand on se laisse habiter par l'Esprit, nos paroles deviennent tellement puissantes. Et nos prières deviennent des bombes atomiques. Oui, des bombes atomiques en ce sens que quand nous prions, parce que Saint Paul nous dit que nous ne savons pas prier, c'est l'Esprit qui vient en nous par des gémissements inexprimables et qui nous apprend à appeler Dieu Abba, Père. Donc, nous ne savons pas prier, c'est l'Esprit qui vient nous remuer de l'intérieur, nous secouer de l'intérieur. C'est l'Esprit qui reformule les paroles de l'intérieur et ce sont des paroles qui viennent de très, très, très loin. Et quand ça sort, ça balaie tout sur son passage. Vous suivez, s'il vous plaît? Je continue rapidement. Saint Paul, dans son voyage à travers Macédoine, qu'est-ce qu'il nous dit? Saint Paul, Actes chapitre 20, versets 22, 23. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Actes 20, 22 et 23. Donc, quand on se laisse conduire par l'Esprit, voilà, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je repense, c'est tellement profond ce que Saint Paul nous dit. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, être lié par l'Esprit. Je suis tellement collé à l'Esprit, lié à l'Esprit, indissociable de l'Esprit, inséparable de l'Esprit. Je vais à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui m'attend là-bas? Je ne sais pas. Ne sachant pas ce qui m'y arrivera, je ne sais pas. Mais je fais confiance à l'Esprit et je me laisse pousser par l'Esprit comme Jésus au désert. Seulement de ville en ville, je laisse l'Esprit faire. Comme Jésus qui nous dit, quand on vous prend devant les tribunaux, ne pensez pas ce que vous allez dire. À l'instant même, l'Esprit vous donnera les paroles qu'il faut. Quand on s'ouvre à l'Esprit, l'Esprit vient parler en nous. L'Esprit porte le témoignage du Christ en nous. Il faut s'ouvrir à l'Esprit. Ne pensez pas ce que vous allez dire. Ne rentrez pas dans ce schéma, je vais me défendre. Je vous donnerai un autre défenseur. Mais là, c'est subtil. Quand Jésus dit, je vous donnerai un autre défenseur, ça veut dire que lui-même d'abord, il est notre défenseur. Donc, on a deux défenseurs. Je vous donnerai un autre défenseur. Ça veut dire que moi-même, je suis votre défenseur. Je vous donnerai encore un autre défenseur. Vous avez deux défenseurs, comme si on joue un match de foot. Vraiment, les défenseurs sont là et vous ne pouvez pas passer. Avant de vous atteindre, moi, Jésus, je suis déjà là. Avant de vous atteindre, je vous donnerai un deuxième défenseur. Il faut d'abord dépasser le premier défenseur que moi, je suis, Jésus, et dépasser le deuxième défenseur qui est l'Esprit Saint. Avant de vous atteindre. Comme le psalmiste qui dit, le Seigneur a mis pour nous muraille et avant-mur. Muraille et avant-mur. Donc, avant de vous atteindre, il faut abattre les murs, les murailles et l'avant-mur avant de vous atteindre. On ne peut jamais vous atteindre. Pour vous atteindre, le Seigneur a mis pour nous des boucliers, des cuirasses, des armures, des citadelles, des remparts. Avant de vous atteindre, il faut d'abord atteindre le Christ, ce qui est impossible, et l'Esprit Saint, ce qui est impossible. Je vous donnerai un autre défenseur. Le nœud qui est caché, on vient de le voir. Nous avons deux défenseurs. Et c'est Jésus même qui le dit. C'est bon? Génial, je fais vite. Je cite maintenant, c'est l'heure. Je vais aller vite, je suis presque à la fin. Je n'arrive pas à lire ce que j'ai préparé, être trop collé. Je préfère plutôt... C'est mieux comme ça? Voilà. Nous lisons maintenant 1 Jean chapitre 1 verset 3. 1 Jean chapitre 1 verset 3. Saint Jean nous dit... Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. 1 Jean, vous écrivez d'abord 1, vous écrivez Jean, vous mettez 1 et puis virgule 3. 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Voilà. Et qu'est-ce que Saint Jean dit? Il dit que ce que nous avons vu ce que nous avons entendu. C'est ça ce que nous vous annonçons. Et chacune et chacun est appelé à faire cette expérience, comme Saint Jean. Parce que Saint Jean, le soir du jeudi saint, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, c'est magnifique ce que tu as dit. Il a posé, moi je l'envie quoi. Saint Jean qui pose un peu sa tête sur le cœur de Jésus. Vous imaginez un peu? Oh non, ce serait tellement, j'imagine ça. Poser sa tête un peu sur le cœur de Jésus pour écouter le rythme cardiaque du cœur de Jésus. Oh, c'est beau ça. Pour voir comment le cœur de Jésus bat, tom, 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 pour le salut de l'humanité. C'est tellement beau ça. Et Saint Jean nous dit que ce que nous-mêmes on a vu, on l'a touché, mais on l'a entendu. Notre expérience avec Jésus, c'est ce que nous vous annonçons. Se laisser conduire par le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est devenir les témoins de ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a touché. Et nous, aujourd'hui, non seulement on a vu, on a entendu, mais on va le prendre à 14 heures à la messe, on va le prendre, on va le contempler, et puis on peut même le toucher, le caresser un peu, et puis le prendre et le glisser dans notre bouche. Voilà. Je continue. Donc, conclusion. Comme Saint Jean-Marie Vianney, comme je l'ai dit hier, nous sommes appelés à être à notre tour, parce que si on s'est laissé conduire par la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit, nous sommes appelés à notre tour aussi à conduire d'autres personnes. C'est ça la conclusion, en fait. Voilà. Le Père me conduit, le Fils me conduit, le Saint-Esprit me conduit. Je suis sous la mouvance, la pulsion de l'Esprit. C'est l'Esprit qui m'anime. À mon tour maintenant, chacun à son niveau, comme berger, bergère, comme responsable de groupe, de prière, ou bien chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Je suis appelé maintenant à conduire les gens. Mais, je ne vais pas les conduire comme je veux, mais je vais les conduire comme le Père me conduit, comme le Fils me conduit et comme l'Esprit Saint me conduit. Je ne vais pas conduire les gens avec dictat ou bien comme moi je veux. Non, c'est ce que moi je veux, c'est ce que moi je veux. Non, mais je conduis les gens parce qu'on a fait le parcours comme le Père nous conduit, le Fils nous conduit, l'Esprit nous conduit. C'est la même chose que j'applique pour les autres. Et comme Saint Jean-Marie Vianney, tu m'as montré le chemin d'Ars. Moi, je te montrerai le chemin du ciel. Nous sommes des panneaux indicateurs du ciel. Ceux qui montrent la direction du ciel à nos sœurs et frères. Un chrétien, quand on te voit, ta vie devient une indication pour le ciel. Pour dire aux gens, prenez le chemin du ciel. Prenez le chemin de la lumière. Prenez le chemin de la vérité. Prenez le chemin de la vie. Prenez le chemin de la délivrance, de la libération, de l'exorcisme, de la restauration, du rétablissement. Prenez le chemin de la vie. Panneau indicateur. Je te montrerai le chemin du ciel. Jésus dit dans Luc 6, versets 39 à 45, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? C'est pas possible. Luc 6, 39 à 45. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Voilà. En Jésus, nous sommes guéris de nos cécités. Nous sommes guéris de nos infirmités. Et maintenant, nous avons la lumière de l'Esprit pour conduire nos sœurs et frères vers le Christ qui est la lumière du monde. Et là, Luc 6, 39 à 45. Galates 5, 25. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir. Donc, je vais agir envers mes sœurs et frères parce que l'Esprit me pousse de l'intérieur. Je presse un peu. Je viens de le dire, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Jésus nous a guéris. Que sa guérison se prolonge en nous. et qu'il ouvre nos yeux. Vous voyez, par exemple, lui-même, il a dit, je suis la lumière du monde. Mais il nous appelle aussi à être la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, 13 à 16. Et le verset 16 dit, que votre lumière brille ou luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est le verset 16. Matthieu 5, verset 13 à 16. À l'intérieur, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le lampadaire pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, etc., etc. Et le verset 16 nous dit, que votre lumière brille ou luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ça. Quand on se laisse conduire par le Père, le Fils et l'Esprit, notre lumière doit briller devant les hommes par nos bonnes œuvres. Voilà. Qu'on avait cité déjà dans Galates chapitre 5. On ne va pas reprendre. En nous laissant conduire par la Sainte Trinité, nous sommes appelés à être des guides infatigables de nos sœurs et frères. Et c'est la pointe de cette session. En quittant cette retraite, c'est ça la pointe. Voilà. Je deviens à mon tour aussi le guide de mes sœurs et frères. Je conduis mes sœurs et frères. Parce que moi-même d'abord, je me suis laissé conduire par le Christ. Là, ça nous permet de voir le phénomène de l'héliocentrisme. Vous voyez, par exemple, la lune d'elle-même ne peut pas briller. Mais la lune reçoit sa lumière du soleil pour pouvoir la donner. Je viens de parler du Christ qui est la lumière du monde, mais le Christ qui nous dit aussi que nous sommes la lumière du monde. En prenant ce phénomène de l'héliocentrisme, c'est-à-dire la lune qui ne peut pas briller, mais qui reçoit sa lumière du soleil pour pouvoir la donner, nous les chrétiens, nous sommes comme la lune, et le Christ est le soleil. Nous ne pouvons pas briller si nous ne recevons pas notre lumière du Christ pour pouvoir la donner. C'est l'exemple frappant de la veillée pascale, où on allume la grande bougie pascale et nous venons avec nos petites bougies prendre la lumière à partir du siège pascal pour dire que tu ne peux pas briller avec ta petite bougie si tu ne prends pas la lumière du siège pascal. C'est bon? Voilà. Que le Christ nous guide sur le chemin des béatitudes. Béatitude qui veut nous dire se mettre en route, se mettre en marche. Que le Christ nous guide sur ce chemin du bonheur, ou bien vous voulez que je reprenne un peu le phénomène de l'héliocentrisme. C'est clair? D'accord, ok. Oui. Je crois que je vais m'arrêter là. Que le Christ nous accompagne, que sa lumière soit toujours avec nous et qu'il continue de nous bénir, d'être toujours notre guide par excellence et en retournant chacune et chacun chez lui, que le Christ soit notre modèle et qu'il nous inspire aussi à être des modèles pour nos sœurs et frères dans la puissance de l'Esprit. Amen. Mais on peut toujours multiplier les défenseurs. Vous voyez, par exemple, les anges sont là pour nous garder. Vous voyez, il y a les anges et on peut toujours trouver les saintes, les saints. Toute la cour céleste est là pour nous protéger et nous garder. Vous voyez, voilà, les anges qui sont là aussi. Mais j'ai toujours dit deux. Hein?
Oui. Oui.
Alors... oui. Oui.
Alors, on se retrouve dans 25 minutes. Ça veut dire... 11h10. Ici, dans la salle. Je rappelle les paniers, et puis ceux qui ont besoin de la petite feuille, vous pouvez venir la chercher, j'en ai à vous donner. À tout à l'heure, merci beaucoup.
Ceux qui veulent poser des questions, bien veulent venir, pourquoi pas, je suis là, d'accord. Hier, j'ai reçu environ 10 personnes, après 22 heures, on finissait autour de 23h30, 45 comme ça. Mais c'était un bon moment.
Merci.
Oui, oui.